Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 23 avril 2020 et vous écoutez le café de l'e-commerce depuis nos lieux respectifs de confinement. Je suis Laetitia et je suis toujours accompagnée d'Adrien.
Coucou Laetitia, ravie de te retrouver et d'enregistrer cet épisode avec toi. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast de France sur l'e-commerce pour les professionnels, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à tous ces sujets.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles, que vous soyez du secteur ou simple consommateur. Nous sommes là pour vous, pas vous aider, mais en tout cas vous éclaircir dans cet écosystème.
Laetitia qui part en monologue dès l'introduction, je sens que l'épisode va être long. Laetitia, tu sais, quand tu commences comme ça en intro, tu pars en impro là, tu vois.
Exactement.
On sait que ça va être long.
Freestyle.
T'es prête?
Allez. Adrien.
Laetitia.
Prête.
Prête.
Synchronisation des montres. Et on commence tout de suite avec la rubrique Quoi de neuf chez nous, rubrique préférée d'Adrien, où il nous fait part de ses moments de vie. Adrien, on t'écoute.
Bah écoute, quoi de neuf chez moi, j'avais deux, trois petites choses que je voulais te parler. La première, c'est est-ce que tu t'as remarqué qu'il y avait énormément de webinars en ce moment?
Oui.
Limite trop.
Il y en a beaucoup trop. J'ai lu un article justement hier sur l'explosion des webinars en ligne. Et moi, je suis assez choquée par le nombre de personnes qui s'inscrivent et participent. Enfin, on atteint des records, quoi.
De participation aussi, juste d'organisation.
De participation. J'ai participé à un webinaire organisé par Webedia, qui est une agence, sur notamment TikTok. Mais on était 300. Et franchement, ce n'était pas du pipeau. Ils étaient sur Livestorm, qui est une plateforme que je ne connaissais pas trop. Et il y avait beaucoup de monde et c'était ultra qualifié, c'était pas du tout venant.
Ouais, bah écoute, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de webinars, et il y a énormément de webinars qu'on ne voit même pas, parce que justement, on échangeait avec un invité qui va nous rejoindre dans quelques numéros, on espère, et qui nous expliquait que chaque jeudi, il faisait un webinar ouvert pour tous, pour éduquer un petit peu les marchands ou les marketeurs. Et ça m'a donné la réflexion que tout le monde fait des webinars, tout le monde parle du Covid, comment gérer cette situation de crise. Tu vas la voir sous plein d'aspects différents. Et du coup, je l'ai expliqué par le fait que comme il n'y a plus d'événements physiques, bah, tout le monde utilise le même média pour communiquer et ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà, je suis curieux de savoir est-ce que ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire, je suis étonné là que tu me dises qu'il y a beaucoup de... Enfin, en fonction de la cible, tu auras plus ou moins d'audience, mais la cible, est-ce qu'elle est aussi engagée que lorsqu'elle est hors confinement? Je ne sais pas trop. En tout cas, je vois ici aussi une manière, peut-être une complexité en plus pour les sociétés qui, déjà, le webinar, c'est un outil bon, peu cher, mais peu engageant. Donc, il faut vraiment, tu vois, le recrutement du webinar, ce n'est pas juste un email, mais c'est aller contacter les personnes, personnaliser l'approche, etc. Si maintenant tout le monde se met à en faire, c'est vrai que ça devient compliqué. Une deuxième réflexion que je me faisais, c'était, je me souviens plus, il y a quelques numéros, je crois que je te parlais de ces e-commerçants qui essayaient de limiter leur e-commerce parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir, soit parce qu'ils allaient avoir des problèmes dans les entrepôts pour les livraisons, pour les productions. Et là, justement, je suis tombé sur un article. Donc, j'avais l'impression que ça, c'était un bruit de marché que j'avais ou des discussions que j'avais pu avoir. Et là, j'ai réussi à tomber sur un article. Donc, je l'ai mis les notes dans l'émission, mais qui explique exactement ça. La citation, c'est « On essaie de freiner l'activité e-commerce ». Donc, c'est quand même fort d'entendre ça. Et une des raisons, c'est parce que si tu prends n'importe qui... Donc là, c'était en l'occurrence des Greenwiz, c'est la branche bio de Carrefour qui a été rachetée, le Pure Player Bio. Ils expliquaient qu'en fait, s'ils acceptaient tout le monde, bah, ils auraient des problèmes sur les serveurs, sur les ressources qu'ils ont également pour pouvoir travailler. Et donc, une des manières de freiner, c'est de limiter le panier minimum, pardon. Tu as minimum, tu dois acheter pour 35 euros. Et puis, il y a d'autres critères comme celui-ci. Je crois que c'est 30 kilos maximum de panier, etc. Donc, c'est une manière comme une autre de limiter ou en tout cas de filtrer certaines commandes.
Ouais, alors Adrien, moi je comprends tout à fait que Greenwiz essaie de mettre des critères en place pour filtrer, comme tu dis, pour sélectionner aussi. Après, ça rappelle des temps un petit peu durs, des temps de guerre, hein, de toute façon, où on rationalise et où... ouais, voilà, c'est un peu anxiogène aussi de passer sur un e-commerce comme ça, et en fait que l'e-commerçant doive imposer des règles comme ça et que ça ne vienne pas directement du consommateur. C'est un peu étrange, hein. Je sais pas comment je le percevrais moi si j'étais face à mon panier et on me disait c'est rationalisé, parce que c'est ça, vous n'avez le droit qu'à ça, ouais, c'est un peu Je ne critique pas la démarche,
T'es
hein. Je
d'humeur
dis
un
juste.
peu, t'es d'humeur un peu
Non,
triste aujourd'hui, non?
non, non, non,
Parce que
je
moi, je le vois
critique.
pas comme ça. Je le vois pas comme on rationalise parce qu'on n'a pas les produits. C'est juste on a moins de ressources. Donc en fait, les produits ils sont là. C'est juste on va prioriser et puis on va si t'achètes pour une pomme, on va pas se prendre la tête, on va pas te livrer.
Oui, et ben, ce que je me dis, c'est que c'est au consommateur plutôt de réfléchir comme ça. Mais si effectivement l'éducation doit passer par des critères de rationalisation via l'e-commerçant, bon, c'est dommage.
Et la troisième chose que je voulais te partager, c'était également un article sur lequel je suis tombé. Ces petits bateaux qui... Et ben c'est pareil, c'est une réflexion que j'avais eue cette semaine avec des collègues, je crois, au bureau ou des personnes du marché, qui m'expliquaient qu'il y avait des nouvelles catégories de consommateurs, de clients. Qu'est-ce qu'il y a? Tu souris? Non?
Non,
Ouais?
vas-y,
Tu sais ce que je veux dire?
vas-y.
Non, non, il y a
Non,
une
vas-y.
nouvelle catégorie de clients. C'est ces clients qui ont jamais acheté en ligne ou qui n'achètent pas en ligne et qui d'habitude descendent en bas pour aller acheter leurs produits. Et là, pour la première fois, parce qu'ils sont confinés, ils vont créer leur compte, ils vont acheter en ligne et c'est une opportunité unique de pouvoir
Les capter.
les séduire, donner une bonne satisfaction pour faire en sorte qu'ils reviennent. Et donc, c'est pas encore dit que hors confinement, ils continuent à acheter en ligne parce que peut-être qu'ils vont être toujours attachés au magasin physique, mais peut-être qu'une grande partie vont se dire, mais en fait, c'est canon d'acheter en ligne parce que j'ai plein de services et c'est plus pratique pour moi. Et il va y avoir une adhésion beaucoup plus importante, même après confinement. Donc, je trouvais ça intéressant. Et c'était Petit Bateau qui voyait. Et donc, la quote, la citation, c'était: on voit que beaucoup de nos clientes offline en profitent pour passer leur première commande web. Et ensuite, la réflexion, c'est est-ce que ça va durer?
Moi, j'ai une réflexion là-dessus. J'avais lu un article notamment sur les baby boomers, donc les personnes plus âgées, en tout cas que ceux qui nous écoutent, des seniors du coup, qui se mettaient à consommer sur Internet. Et effectivement, ça rejoint tout à fait ce que tu dis, ces personnes-là sont novices. Donc il faut penser à un UX beaucoup plus simple, donc à des sites beaucoup plus adaptés à des personnes qui ont une vue peut-être un peu défaillante, qui cherchent un petit peu, voilà, je pense tout simplement à la recherche catalogue, ces choses comme ça. Et en réalité, les sites commencent à s'adapter à des sites plus seniors qui maintenant se mettent à consommer en ligne, et effectivement, l'enjeu c'est pas tant de les avoir acquis là pour le moment, c'est de pouvoir continuer à les garder comme consommateurs sur toute la durée.
Donc, je suis curieux de voir tout ça, comment ça va transformer le retail et l'e-commerce. Ça a clairement accéléré l'usage de manière forcée. Donc, et comme le déconfinement, il va passer en une fois, mais il va se faire progressivement, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, c'est très intéressant. Laetitia, tu voulais nous parler de WhatsApp?
Ouais, je voulais parler de notre communauté WhatsApp, de notre groupe WhatsApp qu'on a lancé il y a maintenant une semaine. Voilà, bah merci Los Chupitos et Los Chupitas d'avoir rejoint ce groupe et d'y être encore. Ça commence à prendre, on a pas mal de questions. On a notamment eu une question sur Amazon, hein, ça revient très très souvent, qui a décidé de fermer ses entrepôts jusqu'à nouvel ordre. On en reparlera un petit peu plus tard dans la rubrique Amazon. Et on a eu une question de Yuri. Notamment sur les PGE. Vous savez, ce sont les prêts garantis par l'État pour tout simplement maintenir la trésorerie de certaines marques et enseignes. On écoute tout de suite la question de Yuri.
On parle souvent d'Amazon et de sa politique envers ses salariés, mais savez-vous que le groupe Fnac Darty, qui est un premier gros groupe à avoir touché les aides de l'État, des aides d'ailleurs qui sont venues renforcer une trésorerie déjà bien solide, ne s'est toujours pas engagé à payer les 14% du salaire manquant à ses salariés au chômage partiel, et qui au contraire exerce une sorte de chantage en soumettant le paiement de ce complément à une signature d'un accord qui priverait les salariés de jours de congés payés, de RTT et remettrait en cause les accords sur le temps de travail. Dis donc, ils apprennent vite ces petits Frenchies.
Yuri, merci pour ta question. Donc, je vais répondre à ta question en deux points, parce qu'en réalité, il y a deux questions dans une question. Pour répondre à ces questions, je me suis entourée de deux personnes. La première personne, c'est Mister B, quelqu'un qui travaille dans la banque et qui a participé à l'élaboration du PGE pour Fnac Darty. La deuxième personne, eh bien, c'est Mickaël, Mika de la Compta, qui aborde la deuxième partie de la question, notamment sur les congés payés. Donc, sur la première question, sur le PGE, effectivement, Fnac Darty est le premier groupe français qui a pu recevoir les 500 millions de liquidités demandées. Il y a Air France qui devrait les recevoir là d'ici la fin de la semaine. En quoi ça consiste ces prêts garantis par l'État? En réalité, c'est donner des liquidités pour des frais de fonctionnement aux sociétés, des frais courants. On sait que Fnac Darty, c'est un ensemble de réseaux de boutiques assez important. En réalité, la part en ligne est moindre. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur la partie en ligne. Donc, Fnac Darty, tous les magasins sont fermés. Le site en ligne continue. Là encore, on a encore des débats sur pourquoi Fnac continue à livrer des jeux vidéo et pas Amazon. Toujours est-il que les entrepôts de Fnac Darty continuent à nous alimenter, à livrer, et qu'il y a toujours des salariés qui y travaillent. Donc, je disais, l'ensemble des magasins est fermé et les gens se répartissent un petit peu plus sur les achats Internet, même si là, ça reste impacté. Ces 500 millions d'euros sont versés pour préparer la sortie de crise, en fait. Lorsqu'on va sortir du déconfinement, il va bien falloir réouvrir des boutiques, racheter du stock. Je pense à des livres, voilà, il va y avoir des nouveaux livres, des choses comme ça, tous ces frais de fonctionnement liés à une boutique et qui courent encore aujourd'hui, par exemple l'électricité, des choses comme ça. Dans les centres commerciaux, les bailleurs commerciaux, a priori, auraient le gelé. Je pense à Unibail et toutes ces choses, puisque de toute façon, les centres commerciaux sont fermés. En revanche, quand c'est en pleine rue, effectivement, il faut continuer à payer les baux et les loyers. Et là, c'est de l'argent totalement perdu. C'est de la perte sèche que ces enseignes et marques ne pourront jamais retrouver. Donc, Fnac Darty a estimé toutes ces pertes-là à 500 000 euros. 500 millions d'euros, excusez-moi. L'autre chose, et je voulais revenir là-dessus, c'est que Fnac Darty, par rapport à Amazon, ils sont arrivés très tard dans le marché du numérique. Il a fallu attendre la réunification de Fnac Darty, je crois que c'était en 2015, quelque chose comme ça, 2016, pour avoir une bonne plateforme e-commerce avec un vrai catalogue, que tous les outils puissent être jumelés, utiles, et pour arriver à la puissance de Fnac Darty aujourd'hui, qui figure parmi, je crois, les cinq sites les plus plébiscités, ou au moins les 10 les plus plébiscités par les e-commerçants, par les acheteurs français. Donc là, on n'est pas sur la même catégorie, si je puis dire, même si Fnac Darty fonctionne très très bien aussi en ligne, mais c'est pas du tout le même type qu'Amazon. Et ensuite, sur la deuxième question, donc ah oui, et très important, les 500 millions d'euros, en fait, Fnac Darty peut faire ce qu'ils veulent avec. S'ils ont envie de les allouer pour du chômage ou des choses comme ça, ils peuvent. S'ils ont envie de les allouer pour des boutiques, ils peuvent aussi. L'État ne va pas regarder en réalité. C'est vraiment un peu un contrat de confiance, hein, j'ai envie de dire, c'est un mauvais jeu de mots. La seule particularité, c'est que les actionnaires n'ont pas le droit de se servir de dividendes pendant cette année et pendant cette période de crise sanitaire. Voilà. Et là, j'en viens directement à la deuxième partie de la question sur la période des congés payés, des choses comme ça, où Yuri nous indique, et j'imagine de source très sûre, que Fnac Darty demande à ses salariés de ne pas poser de congés post-confinement et surtout peut-être d'imposer en ce moment des congés. Eh bien, Yuri, c'est encadré par la loi. En fait, la loi passée en express pour cause de crise sanitaire prévoit que l'employeur peut nous imposer jusqu'à 6 jours de congés RTT, voilà, pendant cette période de confinement. Et l'employeur peut nous prévenir 24 heures avant en nous disant, voilà, demain, je t'impose 2 à 3 jours de congé. Donc, effectivement, quand on est salarié, on peut mal le percevoir, on peut se dire, non, je fais ce que je veux, sauf que période de crise, d'état d'urgence, finalement, c'est très encadré par la loi. J'ajouterais que dans certains domaines, comme par exemple dans la banque, et Mr. B me l'a confirmé, eux aussi, ils ont ce genre de choses. Ils peuvent être très bien en chômage partiel, et on peut également, l'employeur peut également leur imposer d'être en congé, et c'est ce qu'ils ont fait pour certains, en tout cas pour ma source. Voilà, Yuri, j'espère avoir été claire. Ce n'est pas vraiment une question e-commerce, c'est une question sur un acteur e-commerce. Mais effectivement, avec Adrien, on s'est dit qu'on y répondrait parce que les enjeux économiques et sociétaux font partie intégrante et encore plus en ce moment du e-commerce.
Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par note vocale ou directement par WhatsApp ou par email. On est plus d'une cinquantaine dans le groupe WhatsApp. Donc voilà, rejoignez et puis c'est pas mal pour poursuivre la discussion. Un autre débat qu'on a constamment avec Laetitia, c'est qu'est-ce qui est e-commerce? Et aujourd'hui, on se rend compte que tout est e-commerce, tout est lié à l'e-commerce.
On passe tout de suite à la rubrique Les infos à retenir et Adrien va nous parler de la FEVAD. Vous savez, la FEVAD, c'est la fédération de quoi déjà?
La vente à
La
distance.
vente à distance, e-commerce. Ouais.
Je vais me faire un tatouage FEVAD parce que j'ai l'impression que j'en parle tout le
Ouais,
temps.
oui, c'est toujours toi qui en parles.
Ouais, et en plus, je trouve ça de plus en plus. Enfin, je trouve ça canon ce qu'ils font. Donc, vraiment super. Et bien, encore une fois, ils ont publié des choses intéressantes. Je vais vous faire un résumé parce qu'en fait, c'est sur la gestion des retours. Dans le cadre des mesures d'urgence prises pour endiguer la pandémie, pardon, il y a une ordonnance qui a été publiée le 25 mars 2020 et qui était venue un peu chambouler les règles qui existaient. Donc, Laetitia, je vais te faire un petit rappel des règles normales que tu dois bien connaître parce qu'en tant que consommateur, c'est des choses sur lesquelles on est habitué. En temps normal, tu as un délai de 14 jours qui débute à partir du moment où tu as le produit chez toi pour indiquer ton souhait de te rétracter. Donc pour dire je veux un retour. Donc peu importe qu'il y ait eu du retard dans la livraison, c'est pas au moment où tu as payé, mais c'est au moment où tu as reçu le colis. Donc si il est en point relais et que tu as mis quelques jours pour le récupérer, c'est pas très grave. Quand tu le récupères, tu as ensuite 14 jours pour dire je veux le retourner ou je veux me faire rembourser. Tu as ensuite, à partir du moment où tu le dis, tu as 14 jours pour renvoyer le produit. Avec cette ordonnance du 25 mars, la nouvelle règle, c'est la suivante. Tu as toujours 14 jours pour notifier le fait de ta rétractation. Si jamais il y a eu du retard, et on sait qu'il y a beaucoup de retard en ce moment, de toute façon, le délai ne couvre qu'à partir du moment où tu as le produit, donc ça n'impacte pas. Et ensuite, au moment où tu dois retourner, tu sais que c'est compliqué de le retourner, donc avoir que 14 jours pour retourner le produit, c'est un petit peu compliqué. Et donc, le délai, il a été revu. Tu as désormais un délai de 1 mois et 14 jours après la fin de la période d'état d'urgence sanitaire pour retourner le produit. Et cette date, aujourd'hui, elle a été fixée au 23 mai. Donc, tu auras jusqu'au 6 juillet 2020 pour retourner le produit, toujours sous la condition que dans les 14 jours où tu l'as reçu, tu as bien notifié. Donc, en gros, tu achètes ton produit, peu importe le délai, tu le récupères à la maison, tu as 2 semaines max pour dire je veux le retourner et ensuite, tu as maximum jusqu'au 6 juillet 2020 pour pouvoir retourner effectivement le produit. Et le délai pour rembourser, donc ça, c'est le retour du produit, le remboursement, il y a pas mal de règles qui existaient pour le remboursement. Est-ce que tu rembourses au moment où tu le mets à disposition du transporteur, au moment où la marque l'a récupéré? Là, aujourd'hui, le remboursement peut être différé jusqu'à la réception du produit ou la preuve de renvoi du produit. Donc, en gros, dans certains cas, ça pourra arriver après le 6 juillet. On peut le comprendre parce que la marque, si tu lui dis que tu l'as retourné et qu'il n'y a toujours pas le produit, elle sera peut-être pas très enclin à te rembourser le produit tant qu'elle ne l'a pas en entrepôt. Et la deuxième chose qui a été couverte par la FEVAD, je vais faire rapide, c'est sur les voyages en ligne. Et là, c'est une ordonnance du 27 mars. C'est une question qu'on se pose tous ou que beaucoup vont se poser parmi nos auditeurs parce qu'on a tous acheté des voyages, des vols. Et j'étais très content de le lire parce que ça s'applique directement à des choses qui me concernent parce que les voyagistes, ils jouent le jeu, mais des fois, ils te le tournent d'une certaine manière. Et donc, quand tu es un consommateur, est-ce que tu peux te faire rembourser sous forme d'avoir à la suite de l'annulation de ton séjour? Alors oui, le remboursement sous forme d'avoir est possible depuis le 26 mars. Le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour le secteur du voyage parce qu'on sait qu'il est très touché. Les contrats annulés depuis le 1er mars et jusqu'au 15 septembre 2020, ils peuvent te proposer un avoir qui sera valable 18 mois au lieu de rembourser le consommateur. Attention, si à l'issue des 18 mois, tu n'as pas utilisé ton avoir, tu auras un remboursement en espèces. Donc ça, c'est quand même important parce que parfois, enfin moi, je l'ai rarement vu cette deuxième partie sur mes vols. Ils me disent, on te file un avoir. On ne t'explique pas que cet avoir, enfin, on te dit qu'il faut l'utiliser, tu as 18 mois pour l'utiliser, mais si
ouais,
tu ne l'utilises pas, on te rembourse. Donc c'est dommage parce que tu mets 1 an et demi pour récupérer l'argent, mais cet argent, il n'est pas perdu. Donc voilà pour les petites news de la FEVAD.
Et on va passer à une étude qui a été menée, alors publiée dans e-commerce mag, qui nous raconte les 100 enseignes où les 18-35 dépensent le plus pendant le confinement. Donc c'est une étude qui a été menée par Joco. Joco, je ne sais pas si tu connais Adrien, c'est une solution de paiement en ligne et en carte aussi physique, en carte bancaire, dédiée justement à la génération Y, 18-35, qui fonctionne sur un système un peu de cashback. Donc en gros, ils ont un réseau de partenariats avec différentes enseignes et lorsque tu, je sais pas, tu commandes sur Uber Eats un plat, à hauteur de ce que tu as commandé, tu perçois une petite rémunération. Tu as commandé pour 25 euros, tu reçois 2 2 € sur une cagnotte à part. Et puis après, bah, plus tu consommes, plus tu as une grosse cagnotte que tu peux récupérer parfois en bon d'achat ou alors bah, en argent numéraire. Voilà.
Je pense qu'on est plus autour de 0,5 ou 1%.
Oui, ouais, exactement. Ouais. C'est pas fou, hein, les pourcentages. Mais ça plaît beaucoup à la génération Y qui... Alors on a déjà discuté plein de fois avec Zetlana, hein, le niveau de confiance des banques de ces personnes-là est très faible. Du coup, bah, on a envie de choisir avec quoi on paye et chez qui on paye, quoi. Donc Joko a réalisé une étude à propos de l'impact du coronavirus. L'étude a été menée... alors, en réalité, il y a deux périodes à prendre en compte parce que c'est une période de... confrontation en fait. En fait, en réalité, l'étude, elle est en rapport entre les deux dernières semaines de janvier, où en France, en tout cas, on n'était pas impacté, on n'était pas en zone de confinement, donc du 7 janvier au 31 janvier, et puis les deux premières semaines du confinement en France, donc du 17 mars au 31 mars. Donc on a deux semaines. Et les dépenses sont analysées par carte bancaire en ligne et en magasin. Donc c'est très omnicanal, hein, au final. C'est du physique et du digital. Et sur un panel de 100 enseignes, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve en premier ? Bah, la grande distribution. Mais dans cette grande distribution, on ne retrouve pas forcément des carrefours ou des choses comme ça. Non, on va retrouver des commerces de proximité. Donc, par exemple, Franprix, qui enregistre plus 49%, Coxy Market, et Leclerc, un petit 15%. On enregistre aussi, on rencontre aussi Amazon. Donc, on le disait que Amazon n'a vu ses ventes croître que de 7%. J'avais lu entre 8 et 10, bon là, ils s'entendent sur 7%. Voilà, donc Amazon, bah, toujours dans le top 100. Enfin, on a aussi la livraison des repas préparés, puisque Uber Eats et Deliveroo continuent à délivrer avec tout leur réseau de restaurants qui ne peuvent pas accueillir en salle, mais qui peuvent livrer. Et là, on constate un boom tous ces acteurs de la food qui sont entre de la préparation et toutes ces choses-là. Vous savez, ce sont ceux qui vous livrent un panier repas, les repas ne sont pas prêts mais vous avez les recettes et vous avez tous les ingrédients pour pouvoir les constituer. Et bien là Kitok enregistre plus 161% et HelloFresh 168%, donc grand boom. Et je suis parmi ces personnes-là puisque j'ai repris mon abonnement Kitok dès lors que le confinement a été annoncé. Sans surprise, on retrouve les jeux vidéo, et ça c'est mondial, c'est pas propre à la France et c'est pas propre non plus à la génération Y. Les VTC en revanche perdent en moyenne 88% de chiffre d'affaires faire sur les deux premières semaines du confinement. Après, on sait que Uber ou même G7 a mis en place, notamment pour le personnel soignant, des systèmes privilégiés pour pouvoir aussi que eux puissent se déplacer avec des partenariats avec l'État. Et enfin, là, je ne sais pas si tu devineras, Adrien, bon, la beauté. Effectivement, ce matin, dans le groupe WhatsApp, Alex nous disait que ça contredisait ce qu'on disait précédemment dans l'épisode, à savoir qu'il y avait une petite baisse sur de la beauté. Alors, il y a une baisse, mais sur des pure players, des gens qui ne font que ça. En revanche, sur les box, et on a parlé très régulièrement ici de Birchbox, on enregistre plus 562% de consommation sur les box beauté. C'est assez simple puisque en réalité les box, on est sur un petit abonnement mensuel, trimestriel, annuel. Là, on n'a pas les statistiques, mais je doute fort que les gens soient abonnés annuellement puisque ce sont les abonnements les plus compliqués à obtenir de la part de ces pure players. Et puis, on est sur un petit panier, quoi. On est sur du 9, 10, 12 euros parfois. Et puis, on est sur du produit qui ne coûte pas très très cher en réalité puisque ce sont soit des échantillons, soit des produits qui sont produits déjà par les marques à cet effet-là. Donc, ça peut être aussi perçu comme de la liquidation de stock, des choses comme ça. Et puis, on est aussi sur de la génération Y qui est très consommatrice et très friande de ce genre de petit abonnement sans engagement. Voilà. Donc, ouais, gros boom des box et abonnements beauté. Et enfin, le dernier, et là, moi, j'étais assez surprise, bah, c'est le poker. En fait, c'est tous les Winamax, la FDJ, les PokerStars, tout ça. Grand boom. Ça s'explique notamment le poker, en tout cas le fait que les gens payent en ligne pour jouer au poker. Ça s'explique par le fait que les paris sportifs n'existent plus, là en tout cas pendant la période de confinement, puisque de toute façon, il n'y a plus de tournoi sportif, il n'y a plus rien. Donc, valeur refuge, le poker.
Merci Laetitia.
Adrien, tu voulais nous parler de Google Shipping ? Il y a une grosse décision qui vient de tomber de la part de Google, là.
Oui, c'était quand même un peu une astéroïde qui est venue s'écraser dans le monde du SEO, SEM. Tout le monde l'a repris. En substance, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu es sur Google, tu as plusieurs onglets. Tu as l'onglet Actualité, l'onglet Images et tu as l'onglet également Shopping, que tu vois surtout quand tu tapes des noms de produits de recherche. Et donc, jusqu'à maintenant, cet onglet ou cette utilisation de Google Shopping, donc le fait d'être listé, de lister tes produits à l'intérieur, c'était réservé aux entreprises qui payaient pour promouvoir leurs biens via des pubs. Donc, tu payais Google pour pouvoir référencer tes produits dans l'onglet Google Shopping, qui est un onglet différent des moteurs du résultat de recherche. Et donc, la news d'il y a quelques jours, c'est Google qui annonce que désormais, le listing dans Google Shopping va être gratuit. Ce sera possible pour tous. Les petites astérisques à ça, donc sur le principe, tu peux dire, bah, c'est génial, tu vas pouvoir enfin lister tous tes produits gratuitement. Oui, mais la pub restera toujours possible dans cet onglet. Donc, tu vas pouvoir continuer à payer et tu seras tout en haut et tout en bas. Donc, tu auras plus de visibilité et plus de clics. Deuxième mais, on n'a pas de données officielles, mais on pressent qu'il y a très peu de personnes qui vont dans l'onglet Google Shopping. En tout cas, autour de moi, je suis certain que personne ne connaît. Tu y vas ? Ouais, moi aussi, je le fais. Ouais. Parce que tu peux utiliser des filtres, etc. Mmh. De temps en temps, et puis tu vas avoir une vision de comparaison de prix aussi qui est relativement bien faite. Mais bon, la grande majorité ne vont pas dans l'onglet Google Shopping. Et donc voilà, donc quel est le réel impact dessus ? Il est bien pour de la com. Ça va clairement à l'encontre d'un Amazon qui aujourd'hui positionne également dessus. Et il faut savoir, on en avait déjà parlé dans de nombreux épisodes, la recherche de produits, ça va être le nerf de la guerre. Tout est e-commerce, ou beaucoup de choses sont e-commerce, et la recherche de produits va être vitale. Et aujourd'hui, les gens, beaucoup de personnes, le premier réflexe quand ils veulent chercher un produit, ils vont sur Amazon et tapent le produit. Donc c'est une manière de communiquer positivement autour de la marque. Donc Google communique positivement. Sensibiliser autour de Google Shopping, certains vont se dire ils connaissaient même pas ou ils connaissaient peu, et donc ça va promouvoir un petit peu le Google Shopping, contre-attaquer un petit peu face à Amazon, et également permettre peut-être une meilleure utilisation de cet onglet, que ça soit côté des marques ou côté des utilisateurs. On verra bien ce qui va se passer. Ça va arriver en avril aux États-Unis et avant la fin de l'année pour au niveau global. On verra l'impact, c'est une bonne nouvelle, c'est bien, mais ça va pas être non plus, comme on a dit, le gros truc,
la révolution.
Le Big Bang.
Et on passe à la rubrique Amazon, la rubrique la plus plébiscitée de podcast.
Surtout avec les actualités en ce moment. Donc plusieurs choses. Pour faire suite la semaine dernière à la décision d'Amazon de fermer ses entrepôts, on est le 23 avril, le jeudi, il est 13h. Et pour le moment, les informations qu'on a, parce que tout change très très vite, c'est
d'après
que les entrepôts
sources.
D'Amazon... Pardon ?
D'après nos sources infiltrées.
Ouais, c'est ça. Non, mais la semaine dernière, quand on a publié l'épisode, il y avait déjà des nouveautés. Et je me suis dit, oh là là, bon, on va le publier. Et puis, une semaine, le temps paraît long. Et donc, les entrepôts sont toujours fermés jusque samedi inclus. Son jugement en appel se fera demain, donc le 24 avril, donc vendredi 24, à la cour d'appel. Et tu avais d'autres compléments d'informations, Laetitia ?
Ouais, du coup, alors effectivement, Adrien le dit à juste titre, la décision en appel aura lieu demain. Mais hier, déjà, Amazon était convoqué au tribunal. Et Amazon a invoqué... le fait de pouvoir continuer à aider la nation grâce à ses colis. Et du coup, ça rejoint complètement la discussion qu'on a eue la semaine dernière et qu'on a eue aussi via WhatsApp. Qu'est-ce que ça veut dire, les produits essentiels ? Puisque moi, je ne cesse de le répéter, en cette période de confinement, tout est un peu flouté. On ne sait plus ce qui est essentiel, on ne sait même plus quel jour on est de toute façon, on ne sait plus quelle heure il est. Enfin, voilà, les repères sont assez floutés. Et effectivement, pour certains, il y a des choses qui peuvent paraître essentielles et pour d'autres, non. Et c'est précisément sur ça qu'Amazon a travaillé sa défense. J'avais parlé des jeux vidéo la semaine dernière. Amazon explique que ça peut paraître essentiel pour des enfants qui sont confinés depuis presque 2 mois maintenant, qui parfois n'ont pas de jardin, ne voient pas trop à l'extérieur, de pouvoir jouer à des jeux vidéo. Après, là, on sombre dans des choses un petit peu plus éducationnelles et toutes ces choses-là, mais ça peut être un argument qui s'entend. Là où les syndicats, encore une fois, je le répète, s'insurgent, c'est sur les distances, les prises de mesures de sécurité sanitaire qui ne sont pas respectées. Et c'est sur ça que les syndicats vont arguer en disant « non, on continue et on poursuit ». Alors, ce n'est pas une grève, on va parler de la grève plus tard, mais en tout cas, on poursuit notre combat et on refuse de travailler dans ces conditions-là. Amazon disant que nous, on ne veut pas payer les 1 million d'euros infligés par l'État si on rouvre par jour, si on rouvre nos entrepôts. Donc là, on est dans un imbroglio. Voilà, tous les jours, toutes les heures, comme le dit Adrien, il y a des nouvelles décisions et de nouvelles choses qui tombent de la part d'Amazon.
Je trouve quand même gonflé le ciel de dire on va sauver la nation. Franchement,
Ah oui, moi ça m'a fait rire.
On se calme un peu. Hein.
Hey, comme on l'a dit.
Là, franchement, c'est limite indécent. Ensuite, tu vas sur Twitter la semaine dernière, il t'explique qu'on est là pour aider beaucoup d'emplois, etc. Donc en gros, ils sont pris en étage et ils se prennent. Enfin, je ne vais pas dire qu'ils se prennent en victime, parce qu'ils ne vont pas se victimiser non plus, mais la com, c'est limite.
La com est très américaine, ça peut passer aux États-Unis. C'est un discours américain.
Ouais, mais bon, non, mais bon, ils communiquent en France sur Twitter, en français, Amazon France, etc.
Oui.
Et
je ne
sais plus comment ils le tournaient le tweet, mais c'était limite abusé. Et le fond du problème, c'est réellement la protection des employés, les conditions de travail, avant tout.
Et on passe aux news simples et funky. Des news dans un format simple et funky.
Facebook injecte 5,7 milliards de dollars en Inde dans la plateforme Jio Platform.
Vestiaire Collective lève 59 millions d'euros pour développer la mode d'après.
Décathlon, après Franprix, s'installe aussi chez Auchan avec 38 produits sportifs pour le moment près d'Orléans.
Stripe lève 600 millions de dollars supplémentaires.
Casper, la DNVB qu'on prenait souvent en exemple pour les matelas, ferme malheureusement sa branche en Europe. 78 personnes qui vont être virées.
Aldi ouvre sa première boutique en ligne en Grande-Bretagne.
Et enfin, Primark qui passe de 750 millions d'euros à zéro.
De chiffre d'affaires.
Littéralement. Parce que, à cause du confinement, 68 000 employés qui sont sans emploi, tous les magasins physiques ont été fermés.
Primark ne possède pas de site de vente en ligne et c'est un gros tort qu'il paye très très cher aujourd'hui. On passe tout de suite à la rubrique Focus Pocus et Adrien aujourd'hui va nous parler d'un benchmark, le benchmark Emarsys.
Ouais Laetitia, est-ce que tu veux présenter Emarsys peut-être en 2-3 mots ?
De manière très très simple, Emarsys c'est une solution de marketing automation.
Qui sont leaders dans leur secteur, alors tout le monde est leader de tout, en tout cas ils sont reconnus par les Forrester Gartner, on en parlait souvent, comme une solution très très puissante, ils ont beaucoup de clients et ils nous ont contactés pour nous partager deux initiatives qu'ils avaient mis en place. Ce sont des initiatives qui sont accessibles à tous, gratuites. Donc, on vous mettra les liens et tout le monde peut le consulter. La première, c'est le site ccinsight.org. C'est un site web, tu n'as pas besoin de t'inscrire et tu as trois onglets. L'onglet, donc tout est en anglais, Global Outlook, c'est on va dire la vue globale, vue d'ensemble globale. L'onglet Outils et l'onglet Ressources. Donc, avant de décrire ce qu'il y a dans ces outils, les deux sites, je suis assez surpris positivement, surtout le fait que ça soit gratuit, que ça soit mis à disposition, parce qu'en général, ce sont des informations qu'on garde soit pour sa base client ou soit d'une manière ou d'une autre qu'on met derrière une inscription qu'on fait payer d'une manière directe ou indirecte. Donc déjà les données, donc l'idée de ces sites, c'est de te faire des benchmarks, de te proposer des indicateurs, des reportings sur l'activité e-commerce au niveau global. On va en discuter dans une seconde. Les données, elles proviennent de plus de 100 pays, donc tu peux aller filtrer par pays si ça t'intéresse et sinon tu as une vue du globe. L'interface est plutôt bien faite. On t'explique qu'il y a plus d'un milliard de profils de consommateurs et plus de 2500 marques globales qui injectent les données. Et l'idée de ce premier site, c'est de se dire, on prend les données d'Emarsys, ils ouvrent et ils demandent aux autres technologies tierces d'alimenter également avec leurs données. Tout est anonymisé, bien sûr. Et ensuite, ils te mettent ça à disposition. Ils agrègent les données, dédupliquent, ils font leurs calculs et te le mettent à disposition. Donc, dans l'onglet, dans le premier onglet, qui est l'onglet Outlook, tu as des analyses qui t'expliquent un petit peu les tableaux de bord, les reportings, etc. Donc, on va te faire des analyses. Le deuxième onglet, c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. C'est celui où on va avoir des tableaux de bord. Et donc, tu as l'agrégation de ces données et tu vas pouvoir aller jouer avec les filtres. Donc, il y a quelques filtres qui vont être sur lesquels tu vas pouvoir jouer, notamment est-ce que c'est un acteur e-commerce pure player ou est-ce que c'est un acteur qui est retail, donc il y a surtout des magasins physiques et aussi le site e-commerce. Ça m'a tout de suite fait penser à un reporting ou des données, des benchmarks qu'on avait à l'époque de Salesforce et qui continue d'avoir, qui s'appelle le Shopping Index. Donc tu as la plateforme e-commerce qui te mettait ça à disposition. Ce qui est intéressant et à la différence de beaucoup de benchmarks, et notamment celui que je connaissais de Salesforce, c'est que là, chez Salesforce, les données sont fermées. C'est les données qui sont de la plateforme commerce. Là où Emarsys t'explique qu'ils ouvrent ça et si tu es un partenaire et que tu veux alimenter avec tes données, tu peux les contacter, les alimenter. Donc ça, c'est super. La visualisation, je trouve qu'elle n'est pas extraordinaire, ça fait le taf, mais c'est pas fou. Et il y a une bonne représentation de tous les secteurs parce que contrairement à d'autres acteurs qui sont très spécialisés sur une niche de secteur, tu vas avoir plein de secteurs différents, donc c'est génial. Et surtout la partie analyse qui va par-dessus, elle est également super. Donc tu as de l'analyse et ça te donne un bon premier niveau d'information. Et le troisième onglet, c'est l'onglet ressources, que j'ai aussi trouvé très très bien. C'est une revue de presse. Comment on dit curated, Laetitia, en français ?
La curation de contenu.
Ok, ben voilà, il y a de la curation de contenu parce que tu as des articles qui vont être sélectionnés, mais ça va être plus des articles point business sur comment, je me souviens plus exactement comment ils l'ont traité, mais tu peux catégoriser comment faire face à la crise, comment utiliser ça comme une opportunité et comment t'en sortir, te préparer après la crise par exemple. Et donc tu vois, tu vas sélectionner le filtre et tu vas voir tous les articles. Donc je trouve ça super intéressant d'aller consulter ça, ça coûte rien, c'est accès pour tout le monde.
Ouais,
très, très bonne initiative. Ouais, superbe initiative qui s'inscrit complètement dans la solidarité qu'on peut attendre en ce moment des sociétés.
Ouais, exactement. Je partage l'analyse d'Adrien. C'est très accessible. Faut pas être data scientist. Vous pouvez y aller. Ça s'adresse à tout le monde. Si vous êtes un minimum curieux de l'univers e-commerce / Corona Crisis, franchement, allez-y. Ça vous donne plein d'insights. Puis moi, j'ai particulièrement apprécié ce que disait Adrien sur la curation de contenu qui est plutôt... qui est vraiment bien, bien fichu. Donc bravo et merci pour cet outil.
Donc ils ont pris un partenaire pour la visualisation. Donc ça rentre très bien. Et le deuxième outil qui nous a été partagé, c'est un site qui s'appelle benchmarketing.io. Et alors là pareil, tu as trois onglets. Les données pour le coup, elles proviennent des clients d'Imarsis. Donc tu as plus de 3200 sociétés. Donc le premier onglet, c'est l'onglet tableau de bord. Et pour le coup, là j'ai été assez surpris. C'est vraiment super bien fait. Et dans ce tableau de bord, tu vas avoir plein de métriques, des KPI, des indicateurs clés de performance, et tu vas voir la moyenne, tu vas avoir des filtres en fonction de tel ou tel marché, tu peux dire l'habillement, le luxe, les jouets, etc. Et tu as, je t'ai sorti quelques indicateurs clés pour que tu vois jusqu'à quel niveau ça, donc tu as tous les trucs classiques, genre nombre de transactions par client, la moyenne annuelle des dépenses de clients, le pourcentage des acheteurs actifs, et donc c'est tous les acheteurs qui ont au moins un achat dans les 90 derniers jours, quel est le pourcentage de clients inactifs qui se transforment en clients actifs, le pourcentage de contacts qui ont un email valide, donc, tu vois, ça touche vraiment de tout. Tu as le taux de clic à partir du mobile, et je fais la comparaison avec le desktop, et tu as un ratio d'à peu près x2 sur le mobile en fonction de comment tu regardes les données, et le pourcentage d'inscrits à la newsletter. Donc c'est pas juste les traditionnels indicateurs qu'on voit tout le temps. J'ai trouvé peut-être un petit peu moins pratique de comparer tel ou tel marché, mais d'un autre côté, si je me dis je suis retailer, je suis une marque, je m'intéresse qu'à mon marché, ça m'intéresse pas de comparer si je fais des chaussures avec des secteurs qui n'ont rien avec le mien. Et pour le coup, l'interface est très propre, les données aussi elles sont vraiment bien faites. Je pense que c'est typiquement le genre de truc que tu peux mettre, tu sais, dans tes réunions internes de présentation ou pour te benchmarker. On a cette question constamment quand on travaille avec les clients, c'est bien ce que je fais 10%, mais est-ce que c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que font mes concurrents ou les autres de ce secteur. Donc j'ai trouvé ça super. Le dernier onglet, c'est celui qui m'a le plus plu. Alors, c'est peut-être le plus simple à faire, mais j'ai trouvé ça vraiment super. C'est Advisor, c'est peut-être le conseil, quelque chose comme ça. Et là-dedans, tu as un petit formulaire qui ne paye pas de mine. Il te pose quelques questions. Quel est ton objectif ? Est-ce que c'est d'améliorer ton revenu ou c'est d'améliorer ton acquisition et ta fidélité, qui traduisent par Customer Growth, donc augmentation du client. Et en fait, pour le faire simple, et après je vais aller dans le détail, c'est un petit formulaire hyper simple qui te permet de te donner quels sont les leviers que tu pourrais utiliser pour améliorer ta performance en ligne. J'ai jamais vu ça. Tu as souvent dans des articles les trois trucs à faire, ou dans des vidéos YouTube, etc. Mais c'est jamais aussi simple. En tout cas, moi, ça me parle bien, le formulaire, parce que c'est hyper simple. Donc, pour l'exercice, je me suis amusé à prendre un exemple. J'ai choisi le Customer Growth. Donc, à l'intérieur, ils ont mis acquisition et fidélité. Donc, comment tu peux avoir plus de clients et comment tu peux faire en sorte que les clients, ils achètent plus longtemps, plus souvent, etc. Donc, quand tu choisis ton objectif, tu peux sélectionner le levier sur lequel tu veux travailler. Et donc, j'ai mis augmenter les first-time buyers et faire en sorte qu'ils se transforment en repeat customer, donc des clients qui reviennent régulièrement. Tout en anglais. Donc là, traduit à la volée, c'est vrai qu'on est habitué à tout, à toujours parler
en anglais
dans ces terminologies, c'est un peu compliqué. Donc c'est améliorer des first time buyers en repeat customer et quelques leviers, il y en avait beaucoup plus, mais quelques-uns que j'ai noté qui étaient amusants. Utiliser l'anniversaire, ça peut être l'anniversaire de création de compte. Donc souviens-toi, c'est des gens qui ont acheté qu'une seule fois, comment tu fais pour qu'ils reviennent sur ton site? Bah, tu peux leur shooter un mail pour dire, bah écoute, c'est ton anniversaire, pourquoi tu en profites pas, et puis on peut te faire filer un bon ou quelque chose. C'est ton anniversaire de création de compte ou c'est anniversaire d'achat. Ça aussi, ça peut être bien parce que parfois, si tu veux pas attendre 6 mois, peut-être que tu peux avoir l'opportunité de contacter plus souvent. Tu peux également les relancer pour noter l'expérience post-achat, et c'est le fameux NPS, Net Promoter Score. Est-ce que tu as été satisfait de ton expérience? Est-ce que tu peux donner un feedback? Donc c'est une autre manière d'engager avec ton client. Dans certaines industries, tu peux si c'est adapté, tu peux le contacter parce qu'il y a une mise à jour de ton produit. Je trouve ça super. Ton produit, il a évolué, il y a une nouvelle chose. Est-ce que ça t'intéresse de le regarder? On le pense beaucoup dans la tech, mais ça peut s'adresser également à d'autres secteurs. Et enfin, les nouveautés en stock. Bon, après, là, on est plus dans du classique, mais si tu te dis, j'ai l'analyse comportementale du client, je sais quelle est l'affinité avec tel ou tel produit, je peux essayer de penser, bah, dans cette catégorie-là, on a ces produits-là et on peut utiliser ça comme pour le relancer. Et ensuite, il y a tous les classiques qu'on connaît bien de recommandations, upsell, cross-sell, etc. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Et je me suis amusé donc à changer les critères, et tu avais des leviers qui étaient différents, donc pas mal comme boîte à outils.
Ouais, bah c'était ma question justement, Adrien. J'allais te demander si tu avais un petit peu joué avec l'outil, si tu avais changé des critères. Bon, ok, tu viens d'y répondre. C'est un vrai travail d'ébéniste qu'a fait Marcis. Et pour moi, à mon sens, c'est un vrai travail de marketing automation. Donc voilà, il y a eu de la collecte de données et en fonction de ça, bah, on peut s'amuser et on peut créer après, par la suite, des workflows qui vont pouvoir, comme le disait Adrien, adresser tel ou tel message à tel segment de telle base du CRM. Donc c'était sympa. Merci de nous avoir offert l'opportunité
que ça soit gratuit, c'est top. Il n'y a vraiment rien à payer.
Exactement.
Le benchmark, ça fait le taf. Il y a beaucoup de données, donc on sent qu'il y a une collecte de beaucoup de données. Je mettrai un point d'interrogation sur comment tu consolides toutes ces données, parce que c'est le gros problème. Mais bon, finalement,
c'est
mieux que rien,
mais
tu sais jamais vraiment.
Dans
la
un temps
source.
Record aussi, hein. C'est ce que je voulais souligner, ça a été fait dans un temps record. Enfin, la crise nous a tous bouleversés et cet outil aussi a été construit.
Non, mais même en dehors de la
ficelé.
Crise, c'est un outil que tu pourrais utiliser tout le temps.
Exactement. Ouais.
Et je le vois vraiment comme un truc. Enfin, ces deux outils-là, ils sont assez complémentaires. Une bonne boîte à outils que n'importe qui travaille dans le marketing, enfin dans l'e-commerce, tu peux réutiliser dans tes présentations pour appuyer tel ou tel point. C'est bien. Ça peut bien illustrer. Et puis l'interface est très propre. Ça aussi, c'est agréable de naviguer dedans. Donc bien joué les gars, et on partagera le lien pour que vous puissiez jouer avec et aller dedans. Dernière section de l'émission, la section paye ton panier, c'est la section jeu, interactif, divertissement. Vous pouvez tout jouer de chez vous. Laetitia, est-ce que t'es prête?
C'est la valise RTL du podcast.
Mais arrête de nous comparer à RTL, oh là là. C'était une boomer en parlant comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai un Cupuc pour toi et j'ai un Kikadi. J'en ai deux même.
Un Cupuc, c'est une question pour un champion. Allez, on y va, c'est parti, concentration maximum, on y va.
T'es prête?
Ouais.
Top. Entreprise française fondée en 2017, je réalise plusieurs levées de fonds de 18,5 millions d'euros avec des investisseurs de renom pour accélérer mon hypercroissance, vente en ligne et en grande distribution. J'ai changé mes emballages et ma communication il y a quelques semaines pour ne plus avoir de bouteilles en plastique. Mon logo est sobre et est composé de ma marque en quelques lettres. Mon fondateur, Anthony Bourbon... Mon fondateur Anthony Bourbon raconte souvent comment il a commencé sans rien et sans sortir de grandes écoles. Je suis une DNVB spécialisée dans la food tech.
Feed.
Oui, bravo.
Ah, j'étais pas sûre parce que j'ai pas ce nom-là en tête pour Feed. J'ai un autre nom d'un mec qui passe souvent. Mais oui, c'est Feed. Ok.
C'était très bien. J'ai été connu pour mes bars fournissant 100% des apports nécessaires d'un repas équilibré. Je suis Feed. Très bien.
C'est
bravo,
ta
Laetitia.
DNVB préférée, ça, Feed.
Exactement, on les adore. Si un jour peut-être il viendra. On passe à la deuxième section, enfin deuxième jeu, le jeu Kikadi. T'es prête, Laetitia?
Allez,
je te donne une citation, je te donne des propositions et tu dois me dire qui a dit ça.
Okay.
Faire simple est probablement l'objectif le plus sophistiqué du monde. Tu as 4 propositions. T'as Jack Ma, fondateur d'Alibaba, Bill Gates, Jacques-Antoine Grangeon, de VP, et Steve Jobs. Jack Ma, Bill Gates, Jacques-Antoine Grangeon ou Steve Jobs?
Jack Ma.
Et c'était Steve Jobs.
Ah non!
Et enfin, deuxième citation, et on va terminer là-dessus. T'es prête?
Allez.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Est-ce que c'est Jeff Bezos? Est-ce que c'est Victor Hugo? Est-ce que c'est le philosophe Sénèque? Ou est-ce que c'est Mark Zuckerberg? J'étais embrouillé là.
Aucun rapport. Voilà, quand je disais que tous les rapports spatio-temporels étaient floutés, on y est là.
Jeff Bezos, Victor Hugo, Sénèque, Mark Zuckerberg.
Répète la citation quand même.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
Bon, Jeff, c'est compliqué pour lui en ce moment.
Jeff Bezos?
Ouais.
Bah moi, j'ai trouvé ça super intéressant, cette quote, parce que je voulais la mêler avec des choses très, très temporelles, d'actualité, parce que c'est tellement d'actualité. Et cette quote, elle a 2020 ans, à
Mais
peu
non,
près.
c'est
C'est
Sénèque.
Sénèque, le philosophe. Ouais.
Eh ben, voilà, comme quoi. Mais c'est pas du tout e-commerce, donc moi, je ne valide pas, hein, d'accord?
Tu valides pas?
Non, c'est pas
Quand
e-commerce.
tu gagnes pas, tu valides pas. Et quand tu gagnes,
Exactement, mais c'est pas
tu
e-commerce.
valides.
Ça dégage. Allez, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment depuis chez vous, votre petit footing que vous vous accordez pendant 1 heure. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur les notes de l'émission ou sur le site Le Café du Commerce ou encore rejoignez notre groupe WhatsApp.
Merci beaucoup pour votre écoute, partagez cet épisode autour de vous et vraiment rejoignez le groupe WhatsApp, c'est fun, on échange, on poursuit les discussions et on essaye de co-construire l'épisode avec vous.
Et s'il
Laetitia,
vous plaît,
on se voit la semaine prochaine.
non, d'abord vous laissez 5 étoiles sur WhatsApp, non, sur Apple Podcast et on se reverra la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Ciao.